Donc aujourd'hui, si vous voulez bien, hein, je vais vous parler un petit peu de, non pas vraiment de la téléorthophonie. Bon, la téléorthophonie, c'est, finalement, c'est de l'orthophonie à distance. Après, le contenu reste le même, de toute façon. Mais c'était un petit peu pour vous parler de ce dont j'en avais parlé avec monsieur. Pour la dysorthographie. Donc voilà, parce qu'en fait, c'est souvent ce domaine qui est le plus sensible dans les écoles. Donc ce que c'est que la dysorthographie, donc c'est un trouble persistant de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe. Alors ça va souvent de pair avec la dyslexie, et souvent on n'utilise qu'un seul terme, on dit quand on parle de dysorthographie, en principe ça englobe la dyslexie. Hein. C'est bien rare qu'on ait des cas d'enfants qui soient uniquement dyslexiques ou uniquement dysorthographiques, ça va souvent ensemble. Et il affecte donc l'apprentissage et l'automatisation de la correspondance phonème-graphème. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des enfants qui ont une difficulté, il y a une boucle hein, qui se met en place entre le phonème, ce que j'entends, et le graphème, ce que j'écris et ce que je lis, et cette boucle qui marche pas très bien. En gros, on peut le résumer comme ça. Mais il s'agit d'un trouble persistant de l'acquisition, c'est-à-dire que c'est pas au bout de 15 jours ou d'un mois qu'on peut dire tel enfant a des difficultés, donc il fait des inversions, des substitutions, donc c'est un problème de dysorthographie. C'est vraiment, il faut du temps, et nous par exemple, on ne pose le diagnostic de dysorthographie qu'en CE1. Ça n'empêche pas qu'on puisse voir des enfants déjà en CP, mais on ne les qualifie pas, et on dit qu'ils ont des troubles de l'apprentissage du langage écrit. Parce qu'on s'est rendu compte finalement que qualifier un enfant déjà au CP de dysorthographie, on n'est pas sûr que ça en soit. Ça peut être un passage simplement que l'enfant a, faire des inversions, des substitutions. Et à ce moment-là, au contraire, on peut installer un trouble qui n'y est pas. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, si vous voulez me poser des questions à mesure que les slides passent ou qu'on le fait à la fin.
J'ai une question.
Ça. Allez-y.
Est-ce que ça englobe aussi les questions de genre des mots en spécifique au français,
enfin,
parce que c'est vrai qu'il y a des élèves, même au niveau lycée, bon alors, ils sont dans un contexte particulier forcément avec le partage entre le japonais et le français.
Mais en fait, si c'est un problème unique, s'ils ont que ça, c'est-à-dire qu'ils se trompent sur les genres, ça relève pas véritablement d'orthophonie. Mais il arrive très fréquemment, par contre, que des enfants qui soient dyslexiques, me disent orthographiques, présentent ce genre de difficultés. Ils sont perdus souvent, même en France, hein, même des petits Français qui sont pas dans le système bilingue, qui sont très perturbés ou perdus pour trouver quel est le genre des mots, etc. Alors, c'est un trouble, c'est la conséquence d'un trouble de l'apprentissage. Alors, en aucun cas, c'est un problème psychiatrique, c'est un problème, c'est pas ça. C'est un trouble de l'apprentissage, et ça relève plutôt d'un trouble, alors on dit plutôt, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr, plutôt d'un trouble neurologique. On n'est pas trop sûr de l'origine, d'où ça vient exactement. C'est la conséquence, c'est pas la conséquence d'un niveau d'intelligence inférieur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les enfants qui présentent ces troubles, ces dyslexies d'orthographie, sont normalement intelligents ou au-delà, ou supérieurement intelligents. Voilà. C'est-à-dire, on ne connaît pas de cas d'enfants qui ont des déficits intellectuels, par exemple, et qui présentent des dyslexies d'orthographie. C'est très étonnant. Et en fait, ça veut dire que tous ces enfants qui vont se retrouver avec des difficultés importantes dans leur scolarité, ben en gros, ils ne le méritent pas. Quoi, parce qu'ils peuvent, enfin, personne ne le mérite, mais eux, pas du tout, parce qu'ils ont toutes les compétences intellectuelles pour réussir, mais ils sont bloqués très souvent. Enfin, ils étaient de moins en moins maintenant. Il y a toutes sortes d'aménagements qui se mettent en place justement pour essayer de compenser ce handicap. Donc, on a permis... Donc, à la fac, c'est assez intéressant parce qu'on a des chercheurs qui travaillent par exemple sur l'imagerie médicale et qui permettent depuis peu de pouvoir voir par exemple les cheminements de la. Quand on lit, comment ça se passe, quand un dyslexique lit, quel est le cheminement pour arriver à la zone de lecture par exemple, ou plus ou moins dédié à la lecture. Et donc c'est vraisemblablement un dysfonctionnement de certains réseaux du système nerveux central. Donc ça veut dire quand même que ce qu'on va arriver à faire avec des enfants dysorthographiques, hein, c'est pas forcément de corriger complètement la dysorthographie, mais de faire comment est-ce qu'on peut vivre avec au mieux, parce que une fois que les réseaux du système nerveux central sont en place, ils sont en place, je veux dire, on va pas véritablement corriger, difficilement corriger, mais
on peut avoir un autre.
Pardon.
Je dis ça peut quand même.
Si.
On peut quand même travailler.
Voilà, on peut travailler, oui, tout à fait, on peut travailler, améliorer les choses, etc. Mais, par exemple, le cheminement va rester à peu près le même, hein. on va pas le faire varier. Donc, ce sont ces réseaux qui sont responsables de la réception, de l'intégration et du traitement du langage, aussi bien oral qu'en écrit. Quels sont les facteurs de risque? C'est souvent une question qu'on nous pose. Les facteurs de risque, ce sont des facteurs pathologiques, souvent des enfants qui ont été prématurés. Hein, on retrouve quand même un pourcentage bien plus important. Ça ne veut pas dire que tous les enfants prématurés présentent une dysorthographie, mais si la prévalence de la dysorthographie est évaluée à 5 à 10% d'enfants au cours de leur scolarité, hein, c'était pas à un moment donné, mais au cours de leur scolarité, 5 à 10% d'enfants ont des problèmes qui relèvent d'orthophonie en général. Chez les prématurés, on monte à 28, entre 28 et 30%. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec trois fois plus d'enfants dans ce cas. La souffrance néonatale, enfin, ça revient. Bon, c'est une difficulté qu'il y a eu au moment de la naissance. Des facteurs psychologiques ou affectifs, hein, qui provoquent un blocage dans l'apprentissage fondamental, paresse, trouble de la motivation. Et c'est vrai que souvent, ces enfants passent pour des enfants paresseux, etc. Alors que très souvent, ce sont des enfants qui travaillent beaucoup, parce qu'ils pour arriver à des résultats médiocres, et c'est pas facile pour eux. C'est pas du tout facile pour eux. Ils vivent un calvaire souvent quand rien n'est fait, quand il n'y a aucun aménagement. C'est vraiment très difficile. Et ils peuvent laisser tomber, dire bon, mais j'arrête, c'est pas la peine, quoi que je fasse, c'est une mauvaise note, etc. Il y a des facteurs génétiques qui provoquent une altération du système cérébral responsable de l'assimilation du langage écrit, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et des facteurs socioculturels, c'est sûr que dans les milieux défavorisés, on trouve plus d'enfants qui ont ce genre de problème. Des familles qui sont peu scolarisées, etc. Et c'est là qu'il est difficile enfin, de faire la différence. Entre est-ce que le déficit qui est là, est-ce que c'est vraiment de la dysorthographie ou est-ce que c'est la conséquence de facteurs socioculturels qui sont défavorables.
Pardon, est-ce que les méthodes de lecture ont des conséquences sur
non.
La dysorthographie qu'une passe niveau
pas vraiment. Pendant longtemps, on a longtemps cru que les problèmes, quand il y avait les problèmes de lecture globale dont on a tellement parlé, etc., mais enfin, je crois que maintenant, c'est à peu près quand même terminé, cette idée. Ça compliquait la vie des enfants qui ont un problème de dysorthographie, mais ça l'induit pas. C'est pas parce qu'ils ont pris de méthodes globales qu'ils avaient plus de difficultés que les autres. Donc les différentes manifestations de la dysorthographie, mais il y en a quatre essentiellement, hein. C'est les troubles de la transcription phonologique, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les sons, les troubles du contrôle sémantique, les troubles morphosyntaxiques et les troubles du lexique orthographique. Donc on va les reprendre, les quatre points rapidement. Les troubles de la transcription phonologique, hein, c'est un déficit au niveau phonème-graphème, cette fameuse boucle dont on parle, dire bon, mais j'entends un son ou je vois un son, comment je vais le lire, comment je vais l'écrire. Donc c'est l'enfant qui a des difficultés à associer un graphème à un son, c'est-à-dire faire correspondre une unité sonore à une unité écrite. Enfin, ça, vous connaissez bien ce genre de problème. Et cette prédisposition qui, dans 80-90% des cas, est automatique. Elle se fait spontanément. Mais chez 5 à 10% d'enfants, elle ne se fait pas naturellement. Il se manifeste généralement par des erreurs auditives et visuelles répétitives. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire, c'est vraiment répété. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'enfant fait de temps en temps une inversion, une substitution, surtout dans les petites classes, qu'on peut dire qu'il est dysorthographique. C'est vraiment quand c'est répété, que en fin de CE1, par exemple, ils continuent à avoir de grosses difficultés, que la lecture n'est pas fluente, etc. Et ce, alors que l'enfant ne souffre pas de problèmes auditifs particuliers. On parle là d'enfants qui n'ont pas de déficit ni visuel ni auditif, pas de déficit sensoriel. Hein. C'est plus des problèmes, dans ce cas, c'est plus des problèmes qu'on appelle de discrimination auditive. Hein. C'est-à-dire que la différence entre le B et le D, le que et le gue, le feu et le veu, qui sont en opposition sourds de sonore, simplement, ben ils n'entendent pas la différence. Et très souvent, ils sont stupéfaits quand on leur montre comment la différence qu'il y a entre le feu et le veu. Si on regarde les lèvres, par exemple, le feu et le veu, c'est exactement le même point d'articulation, il n'y a pas de différence. Hein. S'il n'y avait pas de son, feu, veu, quand on regarde et on apprend à parler par mimétisme, il n'y a pas de différence. Simplement, quand on fait le veu, il y a une vibration laryngée, et quand on fait le feu, il n'y en a pas. C'est la seule différence. Donc on est obligé souvent de passer par le toucher, simplement. Regarde, écoute bien, quand tu entends, quand on dit feu, il y a une vibration laryngée, il le sent, et on arrive à faire des discriminations qui passent par le toucher, comme ça. Donc ça se manifeste par des confusions entre les sons proches, une assimilation des mots, des inversions de lettres, des substitutions de mots pour un autre mot de sens voisin, chemin pour sentier. Ben, il va lire dans son texte, et puis il y a écrit chemin, il dit sentier, on se dit. Et encore là, on ne l'a pas développé, ça. Mais il arrive qu'il y ait des enfants qui lisent un autre mot que celui qui est écrit, qui n'a rien à voir. Là, c'est le même champ sémantique, un petit peu. Hein. C'est même le même champ sémantique. Mais qui vont lire un autre mot que celui qui est écrit. Et lorsqu'on s'intéresse à savoir, lorsqu'on essaie de voir s'ils ont effectivement compris ce qu'ils ont lu, ils ont compris. Ça veut dire qu'en fait, ils ont effectivement lu le mot qui est écrit, ils l'ont intégré et reproduit différemment. C'est tout à fait spectaculaire, et ça on le voit, c'est clair, ils ont bien compris, ils ont bien lu le mot tel qu'il était, ils l'ont reproduit différemment, comme ils vont le reproduire différemment en écrit. On a demandé, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis auprès d'adultes dysorthographiques. On leur a demandé comment ils pouvaient le qualifier. Voilà. Et bien, une des réponses les plus fréquentes, ça a été, on a l'impression que les lettres dansent. C'est-à-dire que c'est pour ça que quelquefois vous devez voir ça. Hein. On voit le même mot, par exemple, dans le même texte, vous avez dû voir ça. Hein. Je ne sais pas, maison, un coup ça va s'écrire avec AI, l'autre fois avec E, l'autre fois avec un Z, ou quelquefois différemment, etc. C'est qu'en fait, quand ils le voient, ben, ça nous paraît très étonnant, hein, parce qu'on a l'impression que quand c'est écrit. Hein, c'est figé, c'est pas du tout. Eux, quand ils voient qu'ils phonèment, un coup ils voient le H avant le O, un coup le O avant le H, et ils le reproduisent comme ça, plus ou moins. Plus la difficulté qu'ils ont, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour vous aussi, c'est le passage manifestement du plan vertical au plan horizontal. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de difficultés. Ils voient un texte qui est au tableau sur le plan vertical, et le passer sur le plan horizontal, ça les perturbe énormément. C'est pour ça que souvent, c'est assez intéressant de pouvoir, par exemple, leur donner un polycope. Enfin, s'il y a des consignes qui sont, au lieu d'avoir des consignes qui sont données, écrites au tableau, peut-être que quand c'est possible, donner à ces enfants un document qui est déjà écrit, de façon à ce qu'ils puissent travailler dessus. Parce qu'il va se retrouver avec un document qui est souvent illisible, où il manque des mots, où... Alors les parents s'arrachent les cheveux si on ne comprend rien à ce qu'il veut faire, donc il faut téléphoner un copain pour demander ce qu'il a fait, enfin bon, voilà. Donc peut-être donner à ses enfants, quand il y a ce type de difficultés, c'est peut-être pas mal. Et des erreurs de copie de mots. Le deuxième point, donc, sur les quatre, c'était le trouble du contrôle sémantique. Ces troubles se manifestent par une incapacité majeure à assimiler les règles grammaticales et syntaxiques, d'où des lacunes au niveau des accords, des chats. Alors c'est sûr qu'un gamin qui vous écrit des chats sans mettre d'S ne peut pas dire qu'il est dysorthographique. Hein. Ça fait partie d'un tout, hein. Ça va s'ajouter à un certain nombre d'autres problèmes morphosyntaxiques ou phonologiques. une mauvaise assimilation de la conjugaison et des règles d'accord. Bon, ça vous connaissez bien, hein, ils chantent. Il y a beaucoup d'enfants non dysorthographiques qui, bien entendu, font ce genre d'erreur. Hein, et une mauvaise compréhension de la grand-mère, c'est la même chose, les fameuses terminaisons en « et », par exemple, il a mangé pour savoir s'il faut mettre un infinitif, un parti passé, évidemment. C'est toujours cette idée de bien garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'il y a un point qui chez un enfant qui fait qu'on va le cataloguer, bien sûr, comme enfant dysorthographique. Le troisième point, c'est les troubles du lexique orthographique. Hein. Ces troubles se traduisent chez l'enfant dysorthographique par des fautes d'orthographe, même pour des mots familiers, souvent utilisés, même si des mots qu'il a vus 10 fois, il va les écrire 10 fois à la maison correctement, il va arriver à l'école le matin, il va les écrire avec des erreurs partout, pas de la même façon. Il s'explique généralement par un déficit au niveau de la représentation mentale des mots, c'est-à-dire une difficulté chez l'enfant à se mémoriser, à se représenter visuellement les lettres et les mots. C'est-à-dire quand il essaie de remettre en tête, de reproduire ce qu'il a en tête, il va le mettre dans le désordre, il ne sait plus. Donc c'est là qu'on voit ce qui est le plus symptomatique souvent de la dyslexie, dysorthographie, c'est donc les omissions de lettres, l'oubli de lettres, les confusions de lettres, le feu, le veu, ce qu'on disait tout à l'heure par exemple, des ajouts de lettres, des inversions, des substitutions, voilà. Là, quand on commence à voir quand même un enfant qui présente beaucoup d'erreurs du lexique orthographique, ça déjà c'est une indication, il faudrait quand même peut-être bien vérifier, quoi. Même si ça ne suffit pas, il faudrait quand même peut-être vérifier. Quels sont les symptômes de la dysorthographie? Des problèmes au niveau de l'écriture et de la transcription. Hein, tu parlais tout à l'heure de dysgraphie. Hein, et ben, souvent, les enfants dysorthographiques ont une très mauvaise écriture. Ils font des petites lettres. Hein, on a l'impression qu'ils se cachent comme ça. Ils ont l'impression de ne pas trop lire. Donc, ils font des pâtés un petit peu. Donc, ils font les P qui sont très très courts. Hein, il n'y a pas les barres. C'est pas bien marqué. Souvent, lorsqu'il n'y a pas de lignes, quand c'est des feuilles blanches comme ça, et c'est, ils écrivent, tout, ça descend complètement, enfin, etc. Là, ça va, c'est bien. Donc, des problèmes de l'écriture, de la transcription, qui même là, c'est que formel, mais quelque chose qui est quand même permanent, et chez tous les enfants dysorthographiques, c'est la lenteur. Globalement, il y a une lenteur. Dans tout, hein, une lenteur. Il y a souvent, même dans la vie quotidienne, une peine de désorganisation générale. Ils ont un cartable sur un foutoir, ils ne retrouvent jamais rien. Ils ont souvent des difficultés d'attention et de concentration associées. Ce qui fait que, alors ce n'est pas toujours possible à l'école, mais par exemple, ce qu'on dit aux parents souvent, c'est lorsqu'ils travaillent, essayer d'éviter qu'il y ait des bureaux dans lesquels il y ait beaucoup de choses. Parce que tous ces petits stimuli qu'il y a, ou visuels ou sonores, ils ne savent pas les arrêter, ça les perturbe et ils sont incapables de... Alors, ils passent une heure devant une feuille de papier en pensant à tout ce qu'il y a autour. Alors essayez d'avoir vraiment une table où il y a le moins de choses possible. Bon, c'est des détails, mais qui sont... Alors ces premiers symptômes sont décelables dès la petite enfance, et souvent on le voit, hein, des tout petits, même en grande section de maternelle par exemple, qui ont, mais en aucun cas toujours ne pas poser de diagnostic avant la fin du CP ou CE1. Mais bien sûr, hein, quelques difficultés dans l'apprentissage de l'orthographe ne signifient pas forcément qu'un enfant souffre, hein, de dysorthographie. Vous avez l'expérience de ça, hein, les enseignants. Vous voyez, il y a des enfants qui apprennent à lire en rien de temps, d'autres qui mettent plus de temps parce que, ou bien les prérequis n'ont pas été mis, de grandes sections ne sont pas vraiment en place, ou bien parce qu'ils fonctionnent avec des rythmes différents, simplement. Voilà. Donc il faut les laisser aussi, il faut essayer de trouver des solutions en faisant une pédagogie personnalisée, différenciée un petit peu, essayer de voir comment on peut. Les aider. Et donc on parle de troubles dysorthographiques lorsque les difficultés perdurent malgré les mesures prises pour y remédier. C'est-à-dire l'enseignant il fait tout ce qu'il peut, il n'est pas mis en cause ni rien, il le fait, et malgré tout, quoi qu'il y ait, on reste avec des niveaux d'apprentissage qui sont très très difficiles. Alors, on a fait les symptômes, un petit peu essayé de voir les symptômes en primaire et en secondaire. Si le trouble n'est pas dépisté en préscolaire, alors c'est vrai qu'en préscolaire déjà, hein, préscolaire c'est donc la maternelle, on a des tests prédictifs en fin de grande section qui permettent de penser qu'il faut quand même vérifier chez certains enfants que ça va bien se passer au niveau de l'apprentissage du langage écrit. Des enfants qui sont, par exemple, en fin de grande section, qui ne savent pas combien il y a de syllabes dans un mot, qui ne savent pas situer un phonème à l'intérieur d'un mot, ou bien de dire est-ce que dans le mot fumer, tu entends le son U ou pas, par exemple. Ça, c'est, quand ils ne savent pas ce genre de choses, ce sont quand même les prérequis d'apprentissage. Et là, on ne parle pas de dysorthographie, mais on peut se douter que c'est intéressant d'en parler au maître de CP pour lui dire « Fais attention avec celui-là, peut-être qu'il aura du mal dans les apprentissages. » Donc, si le trouble n'est pas dépisté en préscolaire, chez l'enfant et l'adolescent, il se traduit par un retard important de la lecture malgré le passage en CP. Donc, même en CP, fin de CP, il continue à avoir à ramer en lecture. Une non-reconnaissance de lettres malgré leur fréquente d'utilisation, une difficulté à recopier un texte, un pourcentage élevé de fautes orthographes, un écart important dans entre le raisonnement et les résultats à l'écrit. Très souvent, ces enfants, lorsque les interroge oralement, ils ont des niveaux qui sont bien meilleurs. Ils sont tout à fait capables. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire, malgré tout, à un moment donné, quand on est face à un enfant ou un adolescent dysorthographique, sauf dans la matière qui est faite pour vérifier si l'orthographe est bonne ou pas. Bon, là, il fait, et encore, on peut à ce moment-là faire des dictées à trous, trouver des solutions pour lui faciliter la tâche. Mais il ne s'agit pas que dans les autres matières, en SVT, en histoire, en maths, il soit pénalisé simplement parce qu'il n'a pas compris la consigne, ce qui arrive très souvent. On le voit ça, hein. On entend des parents qui viennent, qui nous disent pas ce qui s'est passé, jusqu'à présent il était bon en maths, et cette année il est nul. Il n'est pas devenu nul comme ça du jour au lendemain. C'est simplement que les consignes étant de plus en plus importantes, ben, il n'arrive plus à les lire, ou mal les lire, et forcément le résultat après. Donc s'assurer quand même, c'est une des choses qu'on essayait de faire dans les aménagements, s'assurer oralement quand c'est possible. Qu'il a compris les consignes qu'on lui demande. Une incompréhension du sens des mots à la lecture. Hein, voilà, hein, ils arrivent à déchiffrer, tant bien que mal. Et quand on leur demande de résumer ce qu'ils viennent d'une page de lecture, je parle des plus grands même, hein, ils ne sont pas capables de... Ils ont dépensé toute l'énergie dans l'acte de lecture, dans le déchiffrage proprement dit. Et... la compréhension n'y est pas, ce qui fait qu'ils se découragent pour lire. C'est pas drôle de lire dans ces conditions, hein. Lire c'est pas l'acte de lecture, lire c'est comprendre ce qu'on lit, hein. Donc s'il n'y a pas la compréhension, ils finissent par plus lire, hein, du tout, et ça ne fait qu'aggraver le problème, parce qu'il y a quand même toutes sortes de, par exemple dans le stock lexical par exemple, il va progresser comment? En lisant, hein, c'est en voyant le mot pendant 10 fois qu'ils sauront que pendant un seul, de telle façon il n'y a pas de règle là-dessus. Et une calligraphie irrégulière et maladroite, voilà, très souvent, hein, très très souvent, ça va de pair. Le diagnostic de la dysorthographie est établi à partir d'un bilan orthophonique, hein, voilà. Hein. C'est quand même un petit peu l'idée qu'on essaie de faire passer, c'est de dire que si on doute, autant faire passer un bilan orthophonique pour voir où il en est. On a des bilans normés maintenant qui sont quand même très, très efficaces et qui permettent de bien faire la différence entre les différents problèmes qu'il peut y avoir en apprentissage du langage écrit. Et on peut déterminer quand même très bien s'il s'agit d'une dysorthographie installée ou pas. Donc, dans ce bilan orthophonique, on reprend un petit peu les 4 points qu'on avait vus tout à l'heure. Hein, un test de conscience phonologique. Vérifier si effectivement au niveau phonologique il est en place, un test d'attention de concentration, Voilà, ça nous permettra, nous, plus de pouvoir déterminer quel type de dysorthographie ça peut être. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, dysorthographie de surface, mix, etc. D'en mesurer la gravité, évaluer la capacité du patient, aussi bien sur le plan oral qu'à l'écrit. Donc, il permettra également aussi, et ça c'est important, permettra aussi d'écarter d'autres causes possibles d'un trouble de l'apprentissage. Et ça peut être une dyslexie quand c'est pas associé. Quand c'est pas associé, ça peut arriver qu'il n'y ait qu'une dyslexie pure. Un problème moteur, hein, qu'il est tibial, il peut avoir des difficultés simplement de motricité fine. Hein. Ces enfants qui sont très maladroits, etc., ça peut être que ça. Hein. C'est pas forcément lié à la dysorthographie. Un quotient intellectuel plus bas. Voilà, donc ça permet de le voir. Éventuellement, quand on a des doutes là-dessus, on peut très facilement faire passer un WISC ou faire passer un examen de neuropsie pour voir un petit peu où ils en sont. Parce qu'en fait, si effectivement, par exemple, on a un problème de quotient intellectuel plus bas, on peut penser à ce moment-là qu'il ne s'agit pas d'une dysorthographie, mais que les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à intégrer viennent de ce quotient intellectuel plus bas. Et à ce moment-là, la prise en charge et le travail qu'on peut faire pour les deux est différent, ce n'est pas la même chose. Un déficit de l'attention et de la concentration. Alors ça, c'est un fou retour, on peut... Alors si vous voyez, on était aux États-Unis il n'y a pas longtemps, c'est une catastrophe absolue, je veux dire, il y a la moitié des enfants qui sont sous traitement. Ouais, des traitements qui sont lourds, qui sont pas, c'est pas, c'est de la ritaline, hein. Et voilà, dès que le gamin a un comportement qui est, comment on peut dire, légèrement déviant, enfin, etc., très rapidement on le médicalise, passe sur une ritaline, et en fait la ritaline n'a qu'un effet, c'est de, ben, voilà, si on en prenait à très haute dose, on fait des plantes vertes, quoi. Hein. Alors donc, on essaie, alors ils en prennent que dans la semaine, ils n'en prennent pas le week-end, ils n'en prennent pas pendant les vacances. Ensuite, les parents font leur bidouillage eux-mêmes, alors que c'est vraiment, il faut que ce soit suivi médicalement. Donc, il faut, avant d'en arriver à ce genre de choses, enfin nous, au moins en France, nous à la fac, on est extrêmement réticents par rapport à ça, en disant... Il faut vraiment que ce soit pour des enfants qui ont des problèmes lourds, qui les empêchent eux-mêmes, qui leur empêchent d'accéder à tous les apprentissages, et ou qui perturbent de façon considérable la classe, etc. Un problème au niveau de la compréhension ou un trouble psychologique primaire. Alors, quand on dit un trouble psychologique primaire, on rentre là dans un petit peu le spectre autistique, hein, d'enfants qui ont... lorsqu'il s'agit d'enfants autistes, on a assez rapidement le diagnostic, on s'en rend compte. Par contre, il y en a qui sont borderline, hein, dans le syndrome d'Asperger, par exemple, des choses comme ça, où on a des enfants qui ont surtout un comportement pas adapté. Ils ne savent pas comment faire. Par exemple, s'adresser à un adulte, on le voit. Alors, ils ont des comportements étonnants. Ils s'approchent très près sans se rendre compte qu'en fait, ça ne se fait pas ce genre de choses. Mais eux ne savent pas, ils n'y arrivent pas. Voilà. Ou bien tutoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. Des choses comme ça, des comportements qui sont... non adapté. Et quelquefois, chez certains enfants, on trouve finalement qu'ils ont des difficultés de ce type et qui n'ont rien à voir avec les problèmes des orthographies. D'ailleurs, le traitement, alors la rééducation orthophonique est obligatoire dans ce cas, quand il y a une dysorthographie. Hein, c'est la seule chose qu'on peut faire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, hein, bien entendu. Tout le travail que font les enseignants, etc., la question n'est pas là. Hein. Donc, il faut essayer donc, d'aider l'enfant à surmonter ses difficultés. Plus on attend, plus c'est difficile. Mais en même temps, on est confronté à ce qu'on disait tout à l'heure. On hésite à commencer au CP, quand il y a un... Et après, les parents nous disent, « Ah ben oui, ben alors vous ne l'avez pas dit, mais... » Mais il y a tellement de cas où des enfants qui sont au CP, en fait, tous ces problèmes d'inversion disparaissent spontanément C'est sûr qu'après, c'est plus compliqué. Mais enfin, il ne faut pas aller au-delà, malgré tout, de la fin du CE1, début du CE2, pour commencer quelque chose quand on le pense. Et plus on attend, plus c'est compliqué. On en voit, hein, parce que c'est une des raisons. Hein. Il y a beaucoup de raisons qui ont amené la fac à travailler là-dessus, mais c'est aussi ça, c'est que des enfants qui font, par exemple, une scolarité entière à l'étranger, on sait plus ou moins, alors... Les parents disent, on va essayer de voir un orthophoniste pendant l'été, l'orthophoniste va être en vacances comme tout le monde, donc ils sont submergés, ils voient personne, et petit à petit, ça passe, et ils se retrouvent en sixième, par exemple, et rien n'a été fait, et à ce moment-là, ça devient très très difficile. Donc, le plus tôt, le bilan est fait. Parce qu'il y a deux choses, il y a d'une... Si on doute, il faut faire un bilan. Ça ne veut pas dire que ça va être suivi d'une prise en charge, pas du tout. Mais au moins, à un moment donné, on a une photographie de l'enfant précise sur ses troubles, les troubles qu'il présente. Et ça permet, par exemple, 6 mois après, de refaire un autre bilan et de voir si effectivement il y a une évolution. L'essentiel, c'est qu'il y ait une évolution. C'est quand ça stagne que c'est un problème. Vous connaissez ça, c'est toujours pareil. Hein, c'est en tant qu'enseignant, un enfant qui ne progresse pas, c'est un problème. Celui qui progresse lentement, il progresse lentement, c'est son rythme.
Excusez-moi, le bilan, on le propose donc plutôt au CE1, on attend au CE1 pour donner un bilan orthophonique.
C'est vraiment difficile de pouvoir dire comme ça, on le fait en CE1, on le fait en CP. Je veux dire, en fin de CP, vous avez un gamin qui, par exemple, vous avez vu tous les troubles, qui présente une batterie de troubles, il y a à peu près tout, des inversions, des solutions, des confusions, etc. Ça vaut la peine de lui faire passer un bilan. Ça vaut la peine de lui faire, même en CP, ça vaut la peine. Mais pas forcément pour qu'il y ait un suivi, mais au moins pour voir un petit peu, exactement avoir une image à ce moment-là. Donc le traitement s'effectue de manière individuelle, hein, il faut qu'il soit adapté aux besoins de chaque enfant, sa durée et la fréquence des séances dépendront essentiellement de la gravité du problème, donc c'est le bilan qui le dira. Le plus souvent on voit des enfants, en moyenne les enfants sont vus 2 fois par semaine, à peu près, pour des durées qui sont d'environ 30 à 45 minutes. Alors nous, on évite de le faire 2 fois par semaine, parce que c'est lourd quand même pour les enfants. Donc on fait le plus souvent, on le fait 1 fois par semaine, mais on a une batterie ensuite d'exercices online qu'on propose. Donc par mail, on leur envoie un lien par rapport au travail qui a été fait. On leur envoie un lien. Les enfants font, quand ils veulent à ce moment-là, hein, dans le week-end, quand ils veulent, ils font cet exercice et nous, automatiquement, on reçoit le nombre d'erreurs qu'ils ont commis, le temps qu'ils ont mis pour le faire et le pourcentage d'erreurs, qui permet de voir si effectivement ce qui a été fait a été intégré ou pas. Donc au lieu de faire 2 séances par semaine, on préfère en faire une et leur proposer ce type d'exercice plutôt que de faire 2 séances, qui est souvent, surtout chez les plus grands, qui peut être assez court. Donc la prise en charge, elle consiste à quoi? Ce que vous faites vous en tant qu'enseignant, hein, c'est-à-dire aider l'enfant à acquérir les processus d'apprentissage et ce grâce à des techniques de visualisation normalement, remédier aux déficits de correspondance automatique, phonème, graphème, et apprendre les règles orthographiques à certains enfants. Quelquefois il faut reprendre les règles orthographiques. Les enfants, la plupart des enfants disent orthographiques, en gros ils connaissent les règles, hein. Si vous leur demandez les règles de 1S, 2S, etc., ils sont capables, ils les connaissent à peu près. Le problème, si vous leur faites faire tout un exercice là-dessus, uniquement là-dessus, ils ne vont pas se tromper. Mais dès qu'ils sont en situation, par exemple en dictée, où effectivement à ce moment-là, les possibilités d'erreur sont nombreuses, alors là ils sont perdus et ils n'y arrivent pas. Donc... on est obligé pas de reprendre, oui voilà, c'est ça que je voulais dire, reprendre les règles de grammaire, mais non plus en partant de la règle vers l'application, mais l'inverse, c'est-à-dire multiplier des exercices avec eux sous diverses formes, etc., et remonter à la règle. Après, mais finalement, c'est plutôt par l'expérience des erreurs commises que par la validité de la règle elle-même. Alors donc là après c'est les aménagements scolaires que vous devez connaître. Alors c'est pas il faut qu'on le corrige parce que c'est pas adapté. Donc les enfants dysorthographiques bénéficient des mêmes avantages que les enfants handicapés. On considère que c'est un vrai handicap à partir du moment où il y a eu un diagnostic qui a été posé. L'enfant doit être scolarisé dans un établissement pas nécessairement spécialisé, mais qui se trouve à proximité de son domicile. Bon, ce n'est pas le cas pour vous, mais s'ils habitent à Tokyo, il va être scolarisé au lycée français de Tokyo, pas trop choisir. Et toute décision relative, alors on parle de projet personnalisé de scolarisation, maintenant on ne parle plus de ça, on parle de PAP, qui ont été mis en place pour l'enfant, devra être conjointement prise par les enseignants et les parents. Donc c'est toute une série d'aménagements qui sont proposés. Ça va des plus connus qui sont les tiers-temps, par exemple, supplémentaires pour les examens. Ça va à l'utilisation possible d'un ordinateur s'il le souhaite. Ça va à lui donner, ce qu'on disait tout à l'heure, un texte avec ses devoirs qu'il a à faire, qu'il ait un référent en classe chez qui et celui avec lequel il peut travailler, etc. Donc nous, en tant qu'orthophoniste, quand on a un enfant qu'on suit, on fait des propositions, on dit ben voilà, il nous semble que ce serait pas mal de mettre tels aménagements. Ensuite, après, c'est à l'école, lorsqu'on établit le PAP, qu'il décide oui ou non, si on les fait, si c'est possible ou pas. Et tout ça continue quand même, va très loin, puisque on est à la fac de médecine, donc on est en contact avec des étudiants de médecine, et on a des étudiants de médecine en deuxième, troisième, quatrième année, qui continuent à bénéficier, actuellement, d'aménagements pour leurs examens. Donc ça se limite pas au secondaire, ça va au-delà. Et on a des étudiants en médecine brillants qui auraient échoué s'ils n'avaient pas eu ces aménagements. Ils auraient, par exemple, ils ont des tiers-temps supplémentaires. Pour eux, c'est surtout ça, des tiers-temps et l'utilisation d'ordinateurs avec correcteur de faute. Et s'ils n'avaient pas eu ces aménagements, ils auraient été éliminés à un moment ou un autre au cours d'un concours, etc. Donc c'est quelque chose qui est important et qui permet à des enfants de pouvoir progresser, de pouvoir continuer leur scolarité le mieux possible. Donc voilà, l'enfant doit bénéficier de l'égalité des chances. Alors ça c'est le grand principe, hein, essayer de voir comment on peut mettre une égalité des chances pour tous les enfants, même s'ils sont handicapés. Et M. Stein a disparu. Mais sinon, voilà. Voilà à peu près ce que... Bon, je pense que je ne vous ai pas appris grand-chose, mais bon, ça permet de remettre les choses un petit peu en tête. C'est surtout ça, moi, je ne sais pas.
Alors, maintenant, si vous avez des questions... Vous proposez aux parents...
Bien sûr.
Les élèves pensent avoir repéré, justement...
Tout à fait. Hein, ils peuvent... Les parents peuvent très bien se mettre en contact avec... Il y a un site, donc téléorthophonie.com, hein, c'est le site. Je vous donnerai une carte, comme ça il y aura toutes les informations. Et ils peuvent se mettre en contact avec nous. Voilà. Et à ce moment-là, pour leur faire passer un bilan.
Alors, comme pour un orthophoniste classique, il y a... Vous êtes remboursé par...
Voilà. Alors, c'est pris en charge. Alors, à l'étranger, c'est pris en charge par les mutuelles. Les mutuelles le prennent en charge. Actuellement, on est en négociation. La fac est en négociation avec la caisse d'assurance maladie, qui, bien entendu, freine des quatre pieds pour le rembourser en disant ça va encore coûter cher, etc. Sans se rendre compte que si on ne fait rien, ça coûte plus cher parce que c'est des gamins qui, pendant toute une vie, vont peut-être traîner des problèmes. Mais ça, ils ne voient pas du tout ça. Ils ne voient que le court terme. Mais enfin, bon, on est en train de négocier ça avec une contractualisation avec les agences régionales de santé et avec la caisse pour que ce soit pris en charge de la même façon que les actes.
Oui, mais c'est les mutuelles françaises.
Non. C'est-à-dire...
Par exemple, les familles franco-japonaises, voire
la plupart dans tous les pays, hein, on a les enfants dans 40 pays, je crois, et je crois qu'actuellement, enfin à peu près 90% des enfants qu'on a ont des mutuelles qui prennent en charge. Les mutuelles prennent en charge. Le problème se pose souvent quand c'est, vous devez connaître ça, vous, la CFE, hein, la Caisse des Français à l'étranger, qui est, si la CFE ne prend pas en charge, puisque c'est une émanation de la Caisse de Sécurité Sociale française, les mutuelles derrière ne peuvent pas prendre en charge. Ils nous appellent en disant comment on peut faire. Ils disent, je ne sais pas. Mais eux ne peuvent pas. Ils souhaiteraient pouvoir le faire, mais ils disent on ne peut pas. Tant que la CFE, même si la CFE met 1 euro simplement, nous derrière, on prend en charge. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on est en train de négocier actuellement, ça avec la Caisse. Et c'est vrai qu'on est face à des dilemmes souvent par rapport à ça, parce que il y a aussi beaucoup d'enfants dans beaucoup de pays qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont rien. Et quand on est orthophoniste libéral en cabinet, ben les patients viennent, ils ont leur carte vitale, ils rentrent leur carte vitale, personne ne se pose des questions de savoir est-ce qu'ils peuvent payer, pas payer, il n'y a pas de... Et nous, c'est un vrai problème. Donc on essaie à notre niveau, hein, c'est pas non plus de le compenser. On a passé des conventions avec les diverses universités, facultés de médecine de France qui font des formations de téléorthophonie. Donc les études durent 5 ans. Donc en 5e année, on a affaire à des gens qui dans quelques mois vont être orthophonistes, donc ils ont tout à fait des compétences. Et donc des étudiants de 5e année qui prennent en charge des enfants comme ça, à titre de stage, et à ce moment-là, c'est gracieux. Mais les parents n'ont pas payé. Donc on essaie de trouver des solutions pour que ne pas avoir à dire ben, vous n'avez pas de sous, donc vous ne pouvez pas vous soigner. Enfin, vous soignez. Mais il faut bien penser que ça reste quand même que marginal pour certainement la demande. Mais bon, on ne peut pas aller au... Voilà.
C'est vrai qu'en l'occurrence, pour rebondir sur ce problème de prise en charge, c'est qu'on a beaucoup de parents ici qui sont franco-japonais et qui sont en effet affiliés à une mutuelle qui est japonaise.
Oui.
Donc il faut.
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit toujours aux parents, quand ils nous posent la question de ce type, c'est de dire on peut vous envoyer des documents en français, en anglais, pas en japonais, ça, en fait, pour le faire, mais enfin, pour moi, en français, en anglais. Que vous adressez à votre mutuelle et vous vous assurez que, avant toute chose, que vous êtes pris en charge. Et le principe, c'est, donc on a un système de secrétariat, on est actuellement en orthophonie, on est une quinzaine à peu près de travaillants dans le monde, hein, il y en a, parce qu'on a un problème avec les fuseaux horaires quand même, parce que bon, c'est pas tout à fait simple. Donc on a des orthophonistes qui travaillent en réseau avec nous, qui sont venus se former ici, qui sont... sur la côte ouest des États-Unis, sur la côte ouest, en France, au Moyen-Orient. Et on l'a dupliqué dans d'autres langues, en espagnol, on a des orthophonies, on a la même chose pour les enfants de langue espagnole. Et les parents reçoivent simplement une facture à la fin de chaque mois, c'est-à-dire il n'y a pas de... on a absolument essayer de voulu éviter de faire payer avant, etc. Ils reçoivent, on fait confiance, et donc et ça marche très bien. Globalement, bon, il y en a qui ont un peu de retard, qui ont des fins de mois difficiles, enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Mais enfin, bon, globalement, nous, on ne s'en occupe pas trop. Moi, je ne m'en occupe pas vraiment. Mais... Voilà à peu près.
Merci.
Maintenant, si vous souhaitez... si vous avez par exemple des doutes sur un cas, ce que vous pouvez toujours faire, je vais laisser donc les coordonnées ici, vous pouvez toujours faire, nous envoyer par exemple des documents, par exemple vous dites, ben voilà, j'ai une dictée, voilà ce qu'il fait régulièrement, c'est à peu près comme ça, vous pouvez toujours nous l'envoyer, nous on l'étudiera, on le regardera, on ne peut pas dire qu'on fera un bilan par rapport à ça, mais au moins vous dire, écoutez, ça vaut la peine d'essayer de faire un bilan ou bien, écoutez, on va attendre un peu, enfin, etc. Mais enfin, on est à l'écoute, on le fait et on répond à toutes les... On répond rapidement à toutes les demandes qui sont faites de la part des enseignants. On participe régulièrement à des... lorsqu'il y a des réunions parents-professeurs, par exemple, on y participe en vidéoconférence. C'est tout à fait possible si, quand c'est un enfant qui est suivi par nous, ou si vous voulez un avis ou quelque chose, etc., en parler à des parents. Donc il suffit de proposer un rendez-vous, on se met sur Skype et bon, on n'est pas là physiquement comme moi, mais on est là virtuellement.
Les documents, ça va être des documents écrits à la main, mais est-ce que ça peut être des documents qui tapent à l'ordinateur aussi ?
Ce que vous avez, vous posez des questions par rapport à un enfant, n'hésitez pas à nous nous en parler. Hein. Vous pouvez nous appeler sur Skype, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Il y aura mon numéro, il y aura enfin mon identifiant, etc. Ou de quelqu'un d'autre du service.
J'ai encore une autre question, c'est du coup. Évidemment, plus c'est pris tôt, plus c'est intéressant. Ouais. Est-ce que quand on arrive vers les études plus élevées, c'est encore intéressant, je veux dire, même au niveau lycée
Ça va être peut-être c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Mais dans l'idéal, le plus tôt, c'est le mieux. Voilà. Mais même après, hein, il arrive qu'on voit des enfants qui sont en 5e, en 4e, et qui, pour des raisons diverses, n'ont jamais été vraiment dépistés, sont passés à travers. Puis bon, les enfants eux-mêmes, hein, ils ont des systèmes de compensation, et puis ça passe à travers, on ne se rend pas bien compte, et puis il arrive un moment où ils ne peuvent plus. Quoi.
Après, c'est plus pour les soulager aussi, parce que c'est vrai que, après, s'ils arrivent au lycée,
moi, je pense à sa femme déjà au lycée.
Ils ont déjà plusieurs années. Donc après, c'est plus pour peut-être les aider
et les soulager. Voilà, et leur donner après des conseils, leur dire voilà comment ils peuvent faire, leur proposer justement des... Leur proposer des aménagements. Parce que bon, ça peut être fait à tout moment. Donc,
Merci, monsieur. Voilà.
Donc n'hésitez pas si vous avez des inquiétudes par rapport à des enfants, mettez-vous en contact avec nous quand vous. Ah,
bonjour monsieur. Alors si on a, parce que moi j'ai par exemple dans ma classe une enfant qui est franco-japonaise mais qui parle uniquement japonais, enfin qui parlait uniquement japonais jusqu'à la rentrée. Et qui en japonais parle très très mal et très peu, bon, à 3 ans. Et elle commence à parler un peu en français, à parler un petit peu mieux en japonais, mais en japonais c'est très difficile de la comprendre apparemment pour les personnes qui parlent le japonais. Et en français, j'ai l'impression qu'il y a des sons qui sont difficiles pour elle à articuler. Donc j'en ai déjà parlé aux parents, souvent en petite section j'ai l'habitude de dire aux parents d'attendre un petit peu au fil de l'année.
Dans des tout petits comme ça, en fait, on dit que en fait, la rééducation devrait se faire. S'il y a effectivement un trouble du langage oral, il va être en japonais comme il va être en français. Mm-hmm. Il peut être plus prononcé dans une langue, dans une autre, en fonction des difficultés de l'enfant. Mais enfin, il va y avoir des troubles dans le cas. Et on dit toujours, dans ce cas, on propose toujours de dire il faut faire la rééducation, si rééducation il y a, dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise. C'est-à-dire, si effectivement il est le plus à l'aise en japonais, il vaut mieux qu'il voit une orthophoniste japonaise ici, qui le fera progresser sur les sons, sur l'articulation, etc. Quitte après, éventuellement, sur certains sons qui sont différents en français, de le reprendre après. Mais il vaut mieux le faire dans la langue où il est le plus à l'aise. Donc, surtout dans des âges comme ça, hein, surtout à 3 ans. 3 ans, les plus petits qu'on a, je crois que c'est vers 4 ans, à peu près 4 ans, 4 ans et demi. Et je vous dis, c'est pas forcément une question d'âge, peut-être que... Mais c'est plus une question de pratique. Il vaut mieux le faire dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise. Là, certainement, c'est le japonais. Et il y a des orthophonistes japonaises.
D'accord.